BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête pour explorer ce qui se passe justement dans la tête des pionniers avec cette semaine un pionnier de l'entrepreneuriat dans l'Internet tout court, l'un des tout premiers aussi business angels en France depuis les années 2000. Il investit dans des sociétés de technologie. C'est le fondateur d'e-France, de Mythic et puis plus récemment d'Angelback, le vélo connecté le plus vendu en France. Et il continue évidemment d'être un rôle modèle pour l'entrepreneuriat en France. Nous aurons le plaisir d'accueillir Marc Simoncini.
Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Pierre Tardy, le fondateur d'Outwork, et Caroline Bisval, la fondatrice de Décider. Et puis enfin, en dernière partie, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via l'adresse des pionniers sur le site de BFM Business.
Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Marc Simoncini.
Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Marc Simoncini. Bonjour Marc.
Salut, bonjour.
Alors, tu es un véritable pionnier de l'entrepreneuriat et même de l'Internet français tout entier. Tu es visionnaire, tu as créé des boîtes mythiques, j'allais dire. Du Minitel à l'Internet, aux réseaux sociaux, tu étais là au tout début. Tu es un des premiers business angels français. Tu as investi dans je ne sais pas combien de startups, mais probablement plus de 100. Tu transmets aujourd'hui beaucoup à l'écosystème aussi, et tu t'es même relancé dans une aventure entrepreneuriale avec Angelback, on va en parler. Alors tu connais le principe de l'émission, c'est-à-dire qu'on parcourt ce que tu as fait, mais ce qui nous intéresse nous vraiment, c'est plutôt ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce que tu as appris sur le parcours, parce que ce que tu as fait, on peut le lire ailleurs. Tout au cours de l'émission, on va explorer ça, on va essayer de se mettre dans tes baskets et de comprendre comment tu prends tes décisions. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous présenter des vidéos, des photos et des passages de ta vie. Alors, on va commencer tout de suite, c'est parti. Tu es né en 1963 à Marseille. Tu as un père mathématicien, un frère ingénieur et une sœur dans la finance. Et toi, l'école alors ?
Et alors, l'école, c'était pas mon truc, quoi. J'étais dernier dans toutes les matières, sauf celles que j'aimais. Mais d'ailleurs, mon père, quand il présentait ses enfants, il disait Daniel, ingénieur, Isabelle, MBA finance, et Marc. Et là, il hésitait, il disait poète. Parce que je lisais du Lamartine à 20 ans et il ne comprenait pas.
D'accord. Et donc, tu te lances pas dans les études juste après le lycée, mais tu commences à travailler. Ouais, des jobs, ouais, t'as fait plein de jobs différents, assez manuels, qui t'ont appris des choses. Tu veux nous en dire quelques mots sur quelques expériences ?
C'est-à-dire que j'avais bien compris que les études, c'était pas pour moi, donc j'ai essayé de trouver un boulot, parce que mon père m'a mis dehors après le bac, et il fallait bien que je vive, hein, même si j'étais à la rue, hein, mais bon, voilà. Donc j'ai trouvé des boulots dans le BTP, dans des centres de manutention. Je suis parti aux États-Unis travailler dans une station de ski. Alors c'était des jobs d'été, mais c'est tout ce que j'avais, donc je les ai fait assez longtemps. Puis quand même, quand je suis rentré après plusieurs mois, j'ai dit faut quand même que je fasse des études, parce que le BTP c'est bien, mais c'est quand même dur, quoi. Voilà. Donc j'ai fait des études d'informatique.
Voilà, donc tu rentres à l'école supérieure d'informatique de Montreuil, qui s'appelle aujourd'hui SupInfo.
Ouais.
Et une fois diplômé, tu deviens entrepreneur pour la première fois et tu crées CTB, Communication Télématique Bourgogne. Ouais. Comment c'est arrivé au juste cette première
fois ? J'avais fait mes études à Dijon, mon bac, et un jour je devais aller jouer au tennis avec un copain à Dijon, et le copain était malade, et c'est son père qui veut jouer au tennis avec moi. Je joue avec le père, et il me propose de boire un verre, et il me dit cette phrase auquel je m'attendais pas, il me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Et au lieu de lui dire, je suis salarié, je développe des trucs online chez une start-up.
Tu n'as pas dit que tu étais poète ?
Non, mais j'ai dit, je monte une boîte. Et là, le mec me regarde et il me dit, ah bon, de quoi ? J'ai dit, et je décris la boîte dans laquelle je bossais. Et il me dit, mais je pensais qu'il oublierait tout ça. Et il me dit, si tu cherches des investisseurs, j'en suis. Et je me suis retrouvé au pied du mur et avec cet associé. Et comme il était à Dijon, on a appelé la boîte Communication Télématique Bourgogne, ce qui n'était pas déjà mon meilleur coup marketing à l'époque.
Oui, c'est-à-dire qu'après, pour voir international...
C'était compliqué d'aller voir au-delà de la Saône.
Bon, et alors donc, ça, c'est ta première expérience. Tu développes des services comme jeu d'échecs sur le Minitel, par exemple. Tu développes une messagerie qui ouvrira le champ, d'ailleurs, du Minitel Rose.
Par accident.
Par accident. Parce qu'en fait, c'est le jeu d'échecs a amené les gens à discuter. Et quand ils ont discuté, ils sont allés plus loin.
Ben, en fait, on avait rajouté une petite ligne pour se parler pendant qu'on jouait. Et quand on a rajouté cette ligne, les serveurs ont sauté. Donc, on n'a pas compris pourquoi ça faisait sauter les serveurs. Comme c'est moi qui avais programmé avec l'équipe ce truc-là. Et puis, en regardant, il y avait des centaines de gens qui jouaient, mais qui bougeaient plus les pièces. Et en fait, ils chattaient. Et donc, par accident, et je sais que c'est arrivé dans une deuxième start-up à l'époque, c'était en Alsace, je crois qu'ils avaient eu le même problème. Et en fait, les gens se sont complètement détournés la fonction de SMS par Minitel. Et c'était l'ancêtre des chats, quoi.
Alors juste après, en 98, tu décides de partir sur une autre aventure et tu lances e-France. Donc là, c'est pas e-Bourgogne. Donc
j'avais franchi une étape.
Là, t'as franchi une étape déjà un peu nationale. Donc ça s'appelle e-France, un hébergeur de pages web personnelles. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là et pourquoi tu pensais que c'était le moment de se lancer dans cette aventure qui était complètement nouvelle?
D'abord, pendant 11 ans, je développais des logiciels en B2B pour des entreprises. Donc, je me prenais tous les problèmes des entreprises et ils ne me payaient pas très cher parce que c'est moi qui faisais tourner les trucs, mais j'étais pas très cher. Non, c'était épuisant. Et il me restait à l'époque, je crois, 200 000 francs sur le compte de la boîte. Donc, tu vois, j'avais bossé quand même 11 ans pour ça. Et une nuit, j'avais un bébé, ma fille. Et donc, j'arrivais pas à dormir. Je lui donnais le biberon d'une main. J'étais l'expert du biberon d'une main. Et je tapotais de l'autre. Et je suis allé fouiller sur le HTML, l'Internet, etc. Et à 6 heures du mat, j'ai dit, ce truc-là, ça va révolutionner le monde. Et donc, j'ai arrêté de travailler pour mes clients. Et avec l'argent que j'avais, j'ai développé un portail Internet grand public que j'ai
ici. Parce que tu reconnais ta patte graphique.
Oh la vache.
Ouais. Tu reconnais ton art.
Et pourquoi j'ai appelé ça e-France? Parce qu'à l'époque, Internet, personne ne savait ce que c'était. Et je m'étais dit, si les gens mettent leurs données dans ce système-là, ils vont être rassurés du fait que ça soit en France. Ça n'a pas marché, hein, mais ça est devenu très vite un des portails qui a eu le plus d'audience en France.
Et oui, parce que dès l'été 98, donc quasiment au début, tu as le fonds Viventure qui prend une participation pour 3 millions d'euros.
Ouais.
Tu reçois rapidement même des propositions de rachat et tu finis par vendre justement e-France à Vivendi en 2000 pour 182 millions d'euros. Donc là, c'est
1,2 milliard à l'époque en francs.
C'était en francs, beaucoup.
Ouais.
Et donc suite à ce rachat, tu quittes l'entreprise assez vite.
18 mois quand même, je suis resté 18 mois dans le groupe Vivendi qui avait racheté e-France.
Et alors, c'est comment cette période-là? C'était un peu la première fois où tu vendais et tu restais?
Ouais, c'est surtout que c'est la première fois que je voyais un grand groupe de l'intérieur. Parce qu'à l'époque, Vivendi, c'était un truc, tous les gens intelligents bossaient chez Vivendi. Et donc, ils m'avaient mis au comité, j'ai oublié le nom, pas de direction, mais enfin, au comité, je sais pas quoi.
D'innovation.
Dans lequel il y avait le patron d'SFR, le patron de toutes les filiales et moi. Et donc, j'étais entouré de polytechniciens, de gens brillants, et on faisait des réunions extraordinaires sur des sujets très compliqués. Et là, j'essayais de m'intégrer dans ce truc-là. Et c'est là que j'ai découvert l'intelligence. Pas forcément le bon sens. Mais en tout cas, l'intelligence, quoi. Voilà, donc j'ai passé 18 mois extraordinaires au milieu de gens brillants.
Et tu finis donc par avoir la bougeotte et repartir. Et là, tu repars. Donc en 2002, tu mets en ligne la première version de ce qui deviendra le site de rencontre mythique. Comment le projet est né?
En fait, j'étais très endetté parce qu'à l'époque, j'avais vendu e-France, mais j'étais payé en actions Vivendi et les actions Vivendi s'étaient écroulées, mais j'avais des crédits en face.
Passé de 70 euros à 8 euros.
Quand je suis sorti, c'était 8 euros. Donc j'avais en dette ce que je pensais avoir en argent. Donc j'avais 1 million d'années pour payer mes dettes.
Plus que de la dette.
Ouais. Et donc je me suis dit, il faut que je lance une start-up, sinon je suis mort. Et donc un soir, en dînant avec deux copains qui ne trouvaient pas de filles, je me suis dit, mais si deux ou trois de mes copains ne rencontrent pas de filles, on va leur faire un petit site, ils vont bien s'inscrire, il y aura bien trois filles qui vont venir. Et c'est donné e-France avec 45 millions d'utilisateurs plus tard.
Alors, tu t'étais mis en tête de ne pas bosser autant. Oui, voilà.
Oh la vache, le logo. Le logo qu'on avait fait, quoi.
Tu reconnais encore ta patte.
Incroyable.
Graphique.
Ouais, c'était il y a 25 ans.
Et donc, tu t'étais mis en tête de ne pas bosser autant, voire plus, mais en fait, pas autant que pour e-France, mais en fait, le destin en a décidé autrement, Stéphanie.
Ouais, effectivement, mais vous venez d'en parler en quelques mots. À la revente d'e-France, à Vivendi, vous touchez un premier tiers en cash, les deux autres en actions, et les banques vous conseillent à ce moment-là de garder les actions, persuadées qu'elles allaient monter, et pour financer le développement de Mythique, vous empruntez un emprunt gagé sur vos actions Vivendi, mais en août 2022, le titre Vivendi dégringole, passe de 70 à 8 euros, Fred, tu viens de le dire. Et donc, vous avez mécaniquement plusieurs millions d'euros de dettes à rembourser et rapidement. Une situation que vous auriez pu éviter parce que vous aviez négocié avec les banques un contrat qui vous garantissait le cours de l'action, pourtant, le cours de l'action Vivendi. Mais ce contrat, Marc Simoncini, bah, vous ne l'avez pas signé.
Bah là, on est au niveau de la psychanalyse. C'est que j'ai compris bien après. Ça, ça m'a donné deux leçons. La première, c'est que cet argent, je ne m'accordais pas la valeur pour l'avoir. Donc, inconsciemment, j'ai tout fait pour le perdre et j'ai super bien réussi. Et la deuxième, c'est que finalement, si je n'avais pas perdu tout ça, je n'aurais pas eu l'énergie pour recréer Mythique, parce que j'ai recréé Mythique pour sauver ma peau, parce que je pouvais pas rembourser les banques. Et donc, le fait que j'ai autant travaillé, que j'ai autant mis d'énergie dans Mythique, c'était lié au fait que j'ai perdu cet argent et que j'avais ces dettes. Donc finalement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir tout perdu. Voilà, après, quand j'ai vendu Mythique, j'ai bien fait attention de pas faire deux fois la même.
Signer les papiers.
Et voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'on fait tous des erreurs, on peut pas ne pas en faire, mais il faut pas faire deux fois la même, quoi. Donc, quand j'ai vu Mythique, j'étais un petit peu plus professionnel.
Ouais, c'est ça, tu fais une erreur, t'apprends et tu réussis, mais si tu fais une erreur, tu fais une erreur, tu fais une erreur, c'est,
si
ça marche moins bien.
Si tu fais deux fois la même, non.
En 2005, Mythique entre en bourse pour une valeur de plus de 500 millions d'euros. Donc là, c'est quand même un succès, même très rapide, encore une fois. Avec 20% des parts, t'es l'actionnaire de référence. Ça change quoi pour toi, du coup, cette entrée en bourse? Comment tu as vécu l'entrée en bourse? C'est une étape très importante aussi pour une société. Enfin, des fois, il y a des rachats, des fois, il y a des entrées en bourse.
Ouais, alors des boîtes Internet françaises qui allaient en bourse, il n'y en avait pas beaucoup. Hein.
Ouais,
même
sûr,
pas
hein.
du tout. Hein. Ouais. Donc, ça a été un énorme chantier. C'est ce qu'on dit, hein. Une entrée en bourse, c'est comme les sauts en parachute, t'en fais qu'une. Hein. Parce que quand tu sais ce que c'est, tu refais pas. Bon, on l'a fait, ça a très bien marché. Ça a été 3 ou 4 ans très intenses avec évidemment des reporting, de la transparence, beaucoup de contraintes. Et c'est un autre monde, c'est un autre métier. Et j'étais vraiment pas fait pour ça. Je dis toujours ce truc-là. J'avais un permis scooter et je pilotais une fusée, quoi. Et donc j'ai bien compris que voilà. En plus, on avait un Américain qui nous faisait la guerre, qui était milliardaire. Donc on se battait à la fois contre les marchés, contre le milliardaire, contre. Ça a été 5-6 ans. J'avais oublié. Extraordinaire, mais vraiment terriblement fatigante et terriblement stressante. Donc je les ai faites. Je ne le referai plus jamais. Mais ça a été très 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 formateur et finalement je suis très fier avec les équipes parce que j'ai pas fait ça tout seul, hein. Heureusement qu'ils étaient tous là, d'avoir réussi à le faire finalement. J'aurais fait ça au moins.
Ouais, mais tu avais donc là tu avais une équipe à ce moment-là. Par contre, quand tu as fondé Mythique au début, tu étais tout seul.
Ah oui, j'étais tout seul. On était, enfin, j'ai embauché très vite un CTO et un DG. Ouais. D'ailleurs, l'histoire est drôle, c'est que je ne dis pas lequel, mais on m'avait donné un nom d'un mec formidable et puis un nom d'un mec voilà, et j'ai inversé les noms et j'ai embauché ce qui s'est avéré être formidable. Donc coup de bol.
On avait dû donner deux noms de gens
ouais,
formidables.
Ouais, mais il y en avait un moins bien, puis finalement je me suis trompé et j'ai pris le bon.
Qu'est-ce que t'as fait quand tu t'es rendu compte que tu t'étais trompé?
Bah, j'ai rien dit.
D'accord.
J'ai espéré qu'il soit formidable jusqu'au bout.
Alors, tu aurais aimé, en fait, du coup, fonder Mythique peut-être à plusieurs. Peut-être ça aurait été moins dur à certains moments, quand même. Et pour pallier ça, tu es devenu le premier business angel de France, Stéphanie.
Oui, business angel dès les années 2000. Vous investissez 5 millions de francs d'abord dans 1000 Merci, site spécialisé dans le data marketing. 6 ans plus tard, la start-up entre en bourse. Elle est valorisée 68 millions d'euros. À partir de 2010, vous créez Jaina Capital, un fonds pour structurer vos investissements. Et là, ce sont les projets qui bousculent les frontières, les monopoles, un peu, les projets un peu décalés qui vous intéressent particulièrement. En tout, vous investissez dans une centaine de startups, dont De Vialet, Winamax, Wika ou encore Made. Une quarantaine sont encore sur pied aujourd'hui.
Ouais.
Et en 2019, Jaina Capital fusionne avec le fonds Daphne, auquel vous appartenez toujours aujourd'hui.
Exactement. J'ai arrêté Jaina Capital et tous mes investissements désormais se font au travers d'un fonds qui s'appelle Daphne, dont je suis partenaire. Donc on fait ça de manière beaucoup plus professionnelle, avec pas plus que mon argent, avec on a évidemment levé des fonds, c'est toute la différence. On gère pour le compte de tiers, donc c'est encore un autre métier. Mais c'est une autre manière de le faire, c'est moins business angel et c'est beaucoup plus professionnel. Quand vous dites que j'étais le premier business angel, ça veut dire le plus vieux. Parce que le premier business angel de France, c'est Xavier Niel, de très loin. Mais en termes de timing, je suis pas sûr qu'il ait commencé aussi tôt que moi, mais il l'a fait après, évidemment, beaucoup, beaucoup plus fort que moi.
Xavier Niel, il paraît qu'il a des raccourcis clavier pour dire j'investis, j'investis pas.
Non mais... Ouais,
quand
c'est industriel.
Quand il reçoit un deck. Alors, donc, il y a combien de personnes dans l'équipe de Daphne aujourd'hui?
Il y a une 35-40.
35-40, donc c'est une grande équipe.
Ouais, c'est une grosse équipe qui gère.
Beaucoup d'investissements. Bon, il faut quand même qu'on en parle. T'as investi dans plein de boîtes, mais t'as pas investi dans Blablacar.
Non, j'ai pas investi dans Blablacar parce que le cofondateur que tu connais mieux que moi,
Francis
travaillait pour moi et je lui avais confié un truc super important chez Mythique. Et donc, il était patron de ce truc, quoi. Et puis, un mois après avoir démarré la mission, il vient me voir, il me dit, ah ben non, je me barre, je monte une start-up, mais si tu veux, t'investis. J'étais super en colère qu'ils partent. J'étais déjà pas très enclin à investir et je lui dis, bon, ben, c'est quoi ton idée? Il me dit, ah, un truc, c'est le covoiturage, tu partages une voiture. Je dis, tu partages une voiture, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Vas-y, quoi. Et c'est devenu Blablacar.
Mais, voilà.
Et, mais alors, on peut pas toutes les faire, les bonnes.
Mais toi aussi, quand t'es parti de ta boîte, t'as dit que tu créais ta boîte. Enfin, en gros, tu as fait la même chose.
Oui, j'ai fait la même chose. Oui, t'as raison, t'as raison.
Tu vois,
c'est vrai.
Fait,
c'est vrai. Mais moi, j'ai pas demandé à mon patron d'investir, quoi.
D'accord. Bon, alors, t'as pas arrêté d'entreprendre pour autant, parce que t'as quand même. Bon, alors, t'as investi dans beaucoup de boîtes. Mais là, tu viens de te relancer.
En 2019, ouais.
Bah, c'est il y a pas longtemps,
ouais,
globalement.
Ouais, ouais,
donc,
ouais,
c'est
ouais.
3-4 ans. Mais avant cela, même, t'as pas arrêté d'entreprendre. Il y avait eu aussi Sensi.
Ouais.
Avant, donc, dans l'optique.
On a essayé de casser l'optique française. On y est bien arrivé. Ça nous a pas rapporté beaucoup d'argent, mais on est arrivé à la fois faire baisser le prix de l'optique de 1 ou 2 milliards par an.
Quand
donc,
même.
Les Français dépensent 1 à 2 milliards de moins grâce au combat qu'on a mené. Et puis, je vais pas me priver pour le dire. On a quand même réussi à faire condamner en première instance l'autorité de la concurrence et Essilor pour des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour entrave à la vente online de lunettes. C'était donc mon combat à l'époque.
On voulait pas
Ils ont été condamnés 8 ou 10 ans plus tard. Finalement, on avait raison.
Et donc là, tu viens de lancer Angel donc en 2019, on l'a dit. Donc c'est une start-up de vélos électriques fabriqués en France. C'est déjà le vélo connecté le plus vendu en France ces deux dernières années. Donc là, on te voit devant tes beaux vélos. Elle a quoi de plus cette boîte par rapport à iFrance et par rapport à Mythic?
Ah, c'est de l'industrie. Donc là, on rentre dans l'objet, on rentre dans l'électronique, on rentre dans la soudure, on rentre dans la peinture, on rentre dans les process. Il faut être extrêmement humble vis-à-vis de l'industrie. Nous, dans notre univers, le digital, dès qu'on voit de l'industrie, on dit « oh, c'est des trucs à la papa ». Si on avait une idée de la complexité de ce que c'est... Alors, un vélo, c'est étonnamment particulièrement complexe. Parce que c'est tout fait à la main, donc évidemment, tout est compliqué. Mais si on avait idée des problèmes industriels, on serait dans la tech beaucoup, beaucoup plus modeste, parfois, parce que les valeurs sont bien inférieures, les histoires sont souvent moins médiatisées, mais la complexité, c'est fois mille par rapport à ce qu'on a fait.
Alors moi, je te rassure, justement, c'est grâce à des gens comme toi, et aussi comme Frédéric Potter, qui est dans le hardware aussi, que j'ai compris que le hardware, c'est très très dur. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance
hardware,
à préférer...
Hardware, parce que quand tu fais du hardware, des puces, voilà, bon, t'as des machines qui soudent. Mais quand tu fais de la mécanique, de la fonderie, de la peinture, de l'électronique, tout ça mis sur un objet qui est dehors, qui vibre au froid, à la neige, c'est extrêmement compliqué. Et c'est passionnant, passionnant.
Alors, c'est fabriqué à plusieurs endroits.
Alors, en fait, tout est fait à la main. Chaque fournisseur peut faire des morceaux. Puis, à un moment donné, t'as un Seb, qui est donc mon associé, mon partenaire industriel, qui assemble, finalement, toutes les pièces qui sont produites ailleurs et qui produit le vélo sur un site en France.
Faut combien de temps pour faire un vélo?
Ouais, il faut à peu près 2 heures pour le monter. Tu vois,
pour le monter une fois que t'as
toutes
les pièces.
Pour le monter une fois que tout est arrivé, hein. Voilà. Mais tu vois, par exemple, pendant le confinement, s'il te manquait une rondelle, ben, ton vélo sort pas des chaînes. Il faut que les 800 ou 900 pièces qui composent un vélo arrivent à la même seconde. D'ailleurs, Elon Musk, qui a quand même envoyé des fusées qui décollent et qui ratterrissent au même endroit. C'est quand même un truc, c'est tient de la magie. Quand tu lui demandes ce qu'il a fait de plus dur, il dit, c'est pas de faire une Tesla ou une fusée. C'est d'arriver à sortir à l'heure des voitures sur les chaînes. Parce que c'est extrêmement compliqué que tout arrive en même temps et que tout soit coordonné.
Et entre le moment où tu imagines le vélo et le moment où il sort, il se passe combien de temps? Parce que pour les voitures, c'est 2 à 5 ans.
Ouais, enfin, bah, il s'est passé 2 ans. Le problème, c'est que on a engrangé, on était parti pour en prévendre 10 000, alors qu'on avait prévu d'en faire que 1 500. Donc là, on est allé voir Seb en disant il faut faire une usine.
Ouais.
Et le problème, c'est que le Covid est arrivé et que la sortie de l'usine a pris 6 à 8 mois de retard. Donc on a livré nos clients 6 à 8 mois trop tard sans pouvoir effectuer tous les tests qu'on aurait dû faire dans un monde normal. Donc, on s'est fait quand même assez défoncer par le Covid. Enfin, tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, on sait faire, ça marche et on a de grosses ambitions sur la suite du projet.
Alors, justement, les ambitions d'Angel, c'est quoi?
Alors, d'abord, on est en levée de fonds. Donc, on va lever des fonds, j'espère, pour pouvoir développer ce projet bien au-delà des frontières. Et surtout, on a signé, et on en est très fiers, on a été sélectionné par le groupe BMW après un appel d'offres pour fabriquer des vélos pour la marque Mini. Mini, c'est une marque qui va être électrifiée.
Marque mythique. Ouais.
Marque mythique, ouais. Qui ressemble un peu vélo urbain, voiture urbaine.
Ouais, ouais, ouais.
Et ils ont sélectionné Angel pour produire des vélos sous la marque Mini qu'on va faire à partir de la fin de l'année. C'est un deal mondial sur 5 ans. Hein, et on va donc mettre sur le marché des vélos Angel by Mini avec tout le support du groupe BMW et du groupe Mini. Donc, c'est un saut quantique dans l'activité d'Angel.
Complètement. Mais ça joue au niveau de la marque, de la diffusion,
la
du
marque,
marketing,
la
de la distribution, de...
Qu'est-ce
qu'il y a justement dans tout le panel qu'une grande marque comme ça peut vous apporter?
Tout leur support pour produire un vélo, pour le brander et pour le distribuer. Donc c'est un saut quantique dans l'histoire de d'Angel, et c'est le premier pied à l'étranger, sachant que le deal est mondial. Donc on peut imaginer que dans un an et demi, on vende un vélo mini aux États-Unis, produit, fabriqué, conçu par Angel. Donc pour nous, c'est des perspectives extraordinaires, et c'est la reconnaissance de la qualité de ce qu'on a fait, parce qu'on n'était pas les seuls sur les rangs, et c'est nous que BMW a choisi.
Comment t'as fait? C'est un appel d'offres?
Alors, c'est rempli un appel d'offres.
Des dossiers.
C'est surtout qu'on a un formidable CEO qui s'est démené pour aller
partout.
À trouver le lien. C'est pas moi, c'est John, mon CEO, qui a pris le chantier et qui a gagné le marché. Donc, franchement, on est super fiers de ça, et ça va être un gros, gros truc pour nous.
Bon, tu es un rôle modèle pour les nouvelles générations d'entrepreneurs, je ne t'apprends rien. Tu es même, tu es juré dans Qui veut être mon associé sur M6. On te voit avec tous les collègues. On avait participé ensemble à la première édition également. Tu peux te promener dans la rue ou tu as tous les entrepreneurs?
Alors non,
je suis
la star des jeunes.
Ils te veulent te prendre en photo avec toi.
Je peux me promener, mais je fais beaucoup de selfies avec des gamins.
D'accord. Et ils te pitchent ou pas?
Alors il me dit, tu n'as pas deux minutes? Je dis non. Mais tu as une bonne mémoire puisque tu es entrepreneur, et je leur donne mon mail à la volée. Donc ceux qui s'en souviennent, ils s'en souviennent. Ceux qui n'ont pas le temps de le noter, il faut qu'ils travaillent.
Tu veux nous le donner là ou pas?
Non, peut-être pas.
D'accord. Tu as également publié deux livres, Grandeur et misère des stars du net aux éditions Grasset en octobre 2012, avec les collègues de...
Ça c'est intéressant, ça, parce que je raconte les grands succès de l'Internet de l'époque, mais pas avec la vision officielle, avec tous les échecs et les erreurs.
Ouais.
Donc l'histoire de... D'ailleurs, s'il y en a une à lire, c'est celle de Denis Chalumeau qui a fait Se loger, qui a une histoire extraordinaire et qui a surmonté un nombre de trucs complètement dingues qui ne pouvaient pas arriver et qui lui sont arrivés. Donc en fait, je raconte la réalité, mais c'est tous les échecs qui sont derrière. Et c'est passionnant parce que c'est la première fois qu'on ne raconte pas l'histoire officielle, mais la petite histoire derrière pour montrer que ce n'est pas si simple.
Et tu as également écrit un autre livre qui s'appelle Une vie choisie,
ouais,
que j'ai ici, que tu me dédicaceras juste après.
Avec plaisir.
Je veux ma dédicace. Et tu abordes justement largement la notion d'échec. Pour terminer cette émission, on a une petite question pour toi de la part de Éric Larchevêque, justement.
Éric.
Un de tes collègues sur Qui veut être mon associé.
Salut Marc. Tu dis toujours que Angel sera ta dernière start-up. Or, j'ai un petit peu de mal à le croire parce que lorsqu'on est entrepreneur, c'est pour la vie. On ne s'arrête jamais de penser à de nouveaux projets, à de nouvelles opportunités. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que tu penses vraiment qu'Angel sera ta dernière start-up? Et est-ce que tu vois finalement le reste de ta vie assis là sur un bout de bois, comme ça, ici, à rien faire?
Alors, je vais répondre à Eric, mais je fais toujours la même réponse. Je suis certain qu'Angel sera ma dernière start-up, en tout cas celle dont je m'occupe. Après, je peux investir, mais vraiment celle qui me focalise, en plus de Daphne. Pourquoi? Parce que c'est ma dernière start-up, mais c'est aussi ma première. Étonnamment, toutes les start-up que j'ai créées ou cofondées, Mille Merci, Winamax, Sensi, Mythic, le produit ne m'intéressait pas du tout. Je joue pas au poker, les lunettes, j'en avais rien à faire, j'étais marié quand j'ai fait Mythic. Donc, en fait, le produit m'intéressait pas. Et j'ai fait des startups. Là, le vélo, c'est une passion. Je suis dingue de vélo. Voilà. Donc, et j'ai la chance d'avoir à la fois une passion et une startup qui, pour une fois, match. Donc, je vois pas ce que je ferais de mieux, de plus passionnant pour moi qu'Angel. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la dernière. Un, parce qu'un projet industriel, c'est un temps très long. Et que j'ai déjà 60 balais, et que je ne vais pas encore faire ça pendant 20 ans. Donc, de toute façon, l'âge m'empêchera d'en faire une autre. Et en plus, j'ai la chance d'avoir une passion et un projet fabuleux à développer. Donc, oui, je pense que ce sera la dernière. Vraiment.
Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on n'y croit pas, nous. Mais
je vais la refaire, hein, parce que ça fait 5 fois que je la fais, et le mec, il fait toujours la même gueule, c'est ça.
On a déjà vu. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner justement pour conclure cette émission aux entrepreneurs d'aujourd'hui qui se lancent un peu à la Steve Jobs, tu sais, rester insatiable, rester fou, stay hungry, stay foolish?
Je sais plus ce que... D'habitude, je dis, franchement, le meilleur conseil qu'un entrepreneur puisse suivre, c'est de ne pas écouter les conseils, quoi.
Eh ben voilà.
Parce qu'il y en a tellement.
C'est ça, il y en a suis beaucoup. Enfin, ça dit non, il ne faut pas, faut peut-être pas truc, écouter truc. Tous les conseils, suis mais parfois, sur 100 conseils qu'on, oui, qu'on entend, il y en a un qui est bon.
Tu
ne
peux pas tous les écouter, parce que ça veut dire qu'il faut que tu saches les trier, qui sont pas, qui peuvent être antinomiques. Il y en a un qui te dit réfléchis, l'autre qui te dit fonce, l'autre qui te dit non, tu sais quoi, si tu l'as, tu l'as, tu avances, faut et si tu tombes, tu recommences. Ça suffit comme conseil.
Si tu tombes, tu recommences. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc.
Merci.
Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
Les pionniers, on continue avec le pitch. Chaque semaine, nous recevons des entrepreneurs, des entrepreneuses qui viennent nous présenter leur activité et on leur fournit les conseils. Je suis sur le plateau avec Stéphanie Collo et Agathe Vautier, cofondatrice du Galion et directrice générale, le think tank des entrepreneurs. Vous pouvez vous aussi candidater. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site de l'émission ou bien de scanner le QR code qui s'affiche à votre écran et de soumettre votre candidature pour venir nous voir.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
Et on accueille tout de suite notre première pitcheuse, Caroline Bisval. Vous êtes la fondatrice de Décider, une marque de prêt-à-porter. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Agathe. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono.
Bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Bisval et je suis passionnée de mode. Mais c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. On surproduit, on a trop de stock. Aujourd'hui, un vêtement sur deux est acheté en solde. Et malgré ça, on a encore 25% d'invendus. Pendant le Covid, j'étais acheteuse dans la mode pour les aéroports et j'ai vraiment pu me rendre compte de la difficulté de gestion liée à ces stocks. C'est pour ça que j'ai créé Décider, une marque de chemises singulière, disponible en précommande. Le but, c'est de changer ce business model. Et j'ai pu faire comprendre à mes clientes, aujourd'hui, l'attente, c'est la moitié du plaisir. Donc cette chemise, elle est à col interchangeable, c'est la particularité. Les femmes peuvent choisir les motifs, les couleurs, les imprimer et surtout oser cultiver leur singularité. On est sur des matières nobles, une fabrication locale. Et donc, en plus d'être responsable, on est mode. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'augmenter le taux d'utilisation de nos dressings. On a à peu près 2/3 de nos vêtements qui ne sortent pas de nos placards. La marque a été lancée l'année dernière et j'ai dépassé mes objectifs et au bout d'un mois, j'avais 15% de taux de réachat. Avec Blablacar, Fred, vous avez voulu mettre beaucoup de monde dans les voitures. Avec Décider, aujourd'hui, je propose de mettre beaucoup moins de chemises dans les placards, mais d'avoir beaucoup plus de style et de changer de col comme de chemise. Pour avoir la suite, rendez-vous sur www.decider.com.
Merci beaucoup Caroline Bisval pour Décider. Fred, on commence avec tes questions.
Alors j'aime bien le principe. Je me demande d'ailleurs si, parce que là ce sont des chemises spécifiques.
Oui.
Mais est-ce que c'est possible de changer aussi ou de fabriquer des cols qu'on pourrait changer sur n'importe quelle autre chemise? C'est-à-dire est-ce que du fait que la nouveauté que vous proposez c'est véritablement de changer de col de chemise, est-ce qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le col et pas forcément faire toute la chemise?
Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup de cols qui sont amovibles, que vous pouvez mettre sur un pull, sur un t-shirt, mais sur des cols ronds. Et là, il y a vraiment un dispositif spécifique où on boutonne. Voilà, on boutonne, on déboutonne à volonté. Et en moins de 30 secondes, le tour de cou est joué. Mais on a besoin d'avoir, pour le coup, mon modèle de chemise. Mais c'est un modèle qui est très économique parce qu'une fois que vous êtes équipé, vous avez votre chemise, c'est du prêt à reporter.
Ça veut dire que l'usure sur le vêtement, on considère que c'est principalement le col. Enfin, je veux dire, ça s'use aussi ailleurs, les vêtements.
Alors, ça s'use ailleurs, bien sûr. Alors, il y a une question d'usure, mais il y a aussi une question, on se lasse moins d'un vêtement. C'est-à-dire que là, les femmes, elles vont s'approprier leur style. Elles vont choisir d'avoir une chemise zèbre avec un col jaune. Et donc, dès qu'elles en ont, entre guillemets, marre du col jaune, elles peuvent se diriger vers d'autres cols et redonner une nouvelle vie à leur chemise.
Alors, il n'y a que des cols, vous n'avez pas d'autres produits en tête, je sais pas.
Si,
d'autres...
pour l'instant, on a que des cols. À terme, on me demande de modifier aussi les poignets, d'avoir des poignets amovibles. Et effectivement, on a d'autres idées dans les tiroirs pour 2024.
Est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres industries qui pourraient s'apparenter à ce modèle-là? C'est-à-dire, je ne sais pas quelle industrie...
Ouais, je peux vous parler de l'agroalimentaire, j'y ai passé 7 ans. Donc, par exemple, le café, vous achetez une machine à café, vous investissez dans la machine. Et en général, les machines ne sont pas vendues très très chères. Et le business model, c'est d'aller sur de la dosette pour derrière revendre
donc
de la
le,
dosette.
Le col est à la chemise, ce que la dosette
est à la machine à café.
À la machine à café.
Exactement.
D'accord, très bien. C'est ça le modèle économique. Et donc le col, les poignets. Bon, mais c'est pas exactement pareil quand même. C'est-à-dire que c'est les cols qui sont considérés comme étant le consommable par rapport à.
Oui.
Alors, la chemise n'est pas vraiment une machine. Mais d'accord, je comprends.
Exactement.
Très bien.
Agathe, on passe à tes suggestions concernant le pitch de Caroline.
Caroline, déjà bravo, parce que t'as une manière de présenter ton pitch qui entraîne. On sent que t'es vraiment passionnée par ce que tu fais et donc on a tout de suite envie de t'écouter. Je trouve que c'est super que tu portes ta chemise et que tu nous aies ramené aussi les produits. Comme ça, on peut vraiment voir la qualité, le look. On se projette tout de suite, donc surtout à la télé, c'est important de pouvoir voir les produits. Après, moi, je trouve que ça aurait été bien que tu nous parles un peu du marché, que tu nous donnes des chiffres. Moi, c'est vrai que c'est un peu mon sujet. Quand tu vois, bon là, c'est vrai que c'est un pitch télévisuel, mais c'est important maintenant qu'on est habitué de voir un peu à quel marché on s'attaque. Et puis, parce que là, moi, je suis forcément une consommatrice et future consommatrice, je trouve que ça aurait été bien que tu nous parles un peu de prix.
Ouais.
Et c'est intéressant aussi de voir le business model que tu as imaginé derrière. Et je trouve ça malin, hein, le parallèle que tu fais avec les dosettes. Dans la tech, on parle d'abonnement. Donc, est-ce que tu peux nous raconter le prix et comment tu fais en sorte que les consommatrices reviennent chez toi pour acheter, je sais pas moi, un col par semaine ou pas, peut-être par mois.
Donc, pour l'instant, la chemise est à 119€ et chaque col est à 30€. À partir du troisième col, on fait un prix pour avoir un bundle. L'idée, c'est de faire des batchs de précommande tous les 2 mois. Donc, avoir des rendez-vous sur le site internet pour que les femmes puissent précommander et leur chemise et leur col. Et j'ai perdu le fil de ta question, Agathe, pardon.
Non, c'est ça que tu nous donnes le prix.
Et effectivement, l'abonnement, on me l'a soufflé plusieurs fois et je suis absolument pas contre. J'attends d'élargir mon pool de clientes pour pouvoir proposer ça. Mais effectivement, on me demande de développer en fait à la fois les couleurs, les imprimés, les formes de col. Et du coup d'être très créative pour développer les modèles de chemises.
Parce que là, actuellement, vous avez combien de clientes à peu près ?
Alors là, en un mois, j'ai vendu 70 chemises et j'ai eu 15% de réachat. Je viens de lancer la marque, c'est vraiment tout frais.
D'accord.
Voilà. Mais les clientes reviennent rapidement, soit pour acheter la deuxième chemise, j'ai 2 variantes aujourd'hui, soit pour acheter des cols. Et par exemple, j'avais fait une édition limitée, puisqu'en fait, j'achète des chutes de tissu de grandes maisons et j'en refais des cols. Donc par exemple, ça c'est une édition limitée de Noël que j'ai écoulée à 100%. Voilà, donc ça permet d'avoir un petit achat plaisir.
Merci beaucoup Caroline Bisval. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Décider.
Et comment on fait pour en acheter ? C'est directement en ligne ? Tout se fait en ligne ?
Alors, tout se fait en ligne. Voilà, exactement. Je donne des rendez-vous pour les badges de précommande.
Et donc en ligne, c'est à quelle adresse ?
www.decider.com. Décider, E-E-S, pour les femmes décidées.
Très bien, merci beaucoup.
Le message est passé.
Merci à vous.
Et on accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Pierre Tardy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
Bonjour,
le fondateur d'Outwork.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
3 ans. 3 ans que la pandémie a chamboulé le monde du travail et toutes les entreprises qui ont dû revoir leur organisation. Le travail à domicile, le travail au bureau, le travail depuis l'étranger, on constate qu'il y a une distance qui s'est créée entre les collaborateurs des entreprises. Cette distance, elle est à l'origine de la création d'Outwork. Aujourd'hui, Outwork, c'est une expérience de 2 à 3 jours où les collaborateurs des entreprises se retrouvent pour travailler ensemble dans des lieux uniques, équipés pour travailler à la campagne. Avec bien entendu un accompagnement tout au long de l'expérience, dans la préparation jusqu'à l'exécution et l'accueil des clients sur place. Le business model d'Outwork qui repose sur 2 piliers. Côté collaborateur, le droit de pouvoir bénéficier de cette expérience plusieurs fois dans l'année. On leur donne un ticket vert, c'est un avantage salarial qui s'inscrit dans le futur du travail. Côté entreprise, une promesse forte, c'est un budget workplace équitable fixé à l'année. C'est une marque employeur qui est boostée et qui permet de retenir les talents. Et c'est une expérience à faible impact environnemental, mais à fort impact humain. Aujourd'hui, Outwork, c'est plus de 20 entreprises clientes, 5 lieux opérés, plus de 1000 collaborateurs qui ont vécu cette expérience et une récurrence qui s'est mise en place au sein de ces entreprises. Merci pour votre écoute. Et puis Fred, je te laisse réserver le BlaBlaCar pour qu'on parte faire un network.
Merci
alors,
beaucoup.
Juste
Pierre.
Après, mais avant, j'ai deux, trois questions.
Oui, bien sûr.
Je voulais savoir combien ça coûte. Parce que tu nous parles du modèle économique.
Combien ?
Non, mais bah, voilà, quand même, concret.
En panier moyen, à peu près, pour deux jours et nuit, un format de 36 heures, on est autour de 250 € par personne, hors taxe. Bien entendu, après, ça dépend ce qu'on met dans cette expérience et des activités qui vont être choisies par le client. Voilà.
Et c'est combien de personnes qui le font en général? Alors, ces équipes, enfin, jusqu'à combien?
C'est une très bonne question. On est sur des équipes entre 10 et 35. Donc, dans une entreprise de 900 à 1000 salariés, les équipes se retrouvent de 10 à 40 dans nos lieux pour vivre cette expérience.
Et est-ce que... Alors, le concept, évidemment, paraît encore plus, j'ai envie de dire, évident post-pandémie.
Ouais.
Mais vous devez avoir des concurrents. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez de différent? Pourquoi vous êtes meilleur que...
Ouais.
Est-ce que ça se joue juste au nombre de lieux que vous avez le plus proche de Paris? C'est combien de... Enfin, je dis Paris parce que...
Une heure et demie de Paris pour l'instant.
En train. Une heure et demie
ouais,
en train.
En train ou en voiture?
Alors, une heure et demie en train, on va très loin.
Alors, en TER, un peu moins.
Mais ah, oui. Train et TER.
Voilà,
train et TER. Covoiturage, combien de temps?
Covoiturage, 2 heures max.
2 heures max, ouais. Ok. Est-ce que vous avez déjà levé des sous?
Non, autofinancé depuis le début.
D'accord, donc vous êtes déjà rentable.
On est déjà rentable, tout à fait. On est au point mort sur cette première année d'exploitation. Ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est créé. On a lancé les premiers Outwork en mars 2022.
Alors, donc, c'est l'entreprise qui paye à 100%, mais vous la mettez automatiquement dans un modèle récurrent ou vous l'autorisez à dire, bon, c'est juste une fois, parce qu'une fois par an, on a besoin de le faire, on n'est pas obligé de payer tous les mois.
C'est un très bon point. Ça commence par une première expérience découverte où on voit comment se déroule l'expérience Outwork. Puis ensuite, on discute avec le RH, le Workplace Manager ou l'Office Manager pour mettre en place cet avantage, ce rituel d'entreprise au sein de l'entreprise. Donc, c'est progressif. Et aujourd'hui, on a des entreprises de, comme je disais, de quasiment 1000 collaborateurs qui viennent toutes les semaines par groupe de 20 ou 40.
Alors, comment vous trouvez les hébergements? Est-ce que ce sont des lieux qui étaient déjà faits pour ça ou est-ce que vous transformez, je ne sais pas, des maisons de personnes qui ne les utiliseraient pas
alors,
souvent?
Alors, pour se lancer, c'était vraiment la location ponctuelle de lieux. Tester, itérer sur une dizaine de lieux qu'on a testés au cours de l'année 2022. Et là, on est sur un modèle où on a réduit le nombre de lieux parce qu'on connaît notre cahier des charges, on connaît les attentes de nos clients. On est sur une location qui est exclusive dans ces lieux, la semaine principalement, avec la volonté derrière de faire acheter ou d'acquérir nos propres lieux pour délivrer une expérience vraiment maîtrisée et très marquée Outwork.
Et donc, c'est 250 € par personne, par jour, par comment vous faites?
Alors,
et ça comprend évidemment l'hébergement, c'est-à-dire pas, sur place. Hein, j'imagine que vous ne faites pas des partenariats avec des hôtels d'à côté. C'est logé sur place.
C'est une expérience intégrée sur place. 250 €, c'est sur le format deux jours, une nuit. Mais pour chaque client et chaque avantage, ticket vert, comme je le disais tout à l'heure, on va discuter du format qui est adapté à une entreprise. Est-ce que c'est 3 jours de nuit? Est-ce que c'est 2 jours, 1 nuit? Et à partir de ça, on va définir le prix de cette expérience. Je donne un exemple, un coaching sur place, ça va coûter quand même beaucoup plus cher. Donc le prix à la nuitée va augmenter.
Agathe, quelles sont tes impressions sur le pitch?
Écoute, moi j'ai trouvé que tu as fait un très bon pitch. T'es grand, t'as une bonne voix, t'as de la gestuelle, donc t'embarques assez rapidement. Je trouve que tu parles vite. Moi j'ai un peu le même problème.
C'est
que ça va très vite là-haut, donc forcément on a envie de pouvoir tout dire en peu de temps, mais en fait on est là pour t'écouter. On avait envie vraiment de comprendre Outwork, et donc hésite pas à parler un petit peu moins vite. Après, je trouve que dans le pitch on a tout bien compris. On voit que t'es hyper à l'aise quand on échange après ensemble, et là t'es plus posé, donc voilà, donc l'exercice est quand même bien réussi, mais hésite pas à ralentir le tempo. Voilà. Et moi, je voulais dire que je crois beaucoup en Outwork. Moi, j'ai un réseau de 450 entrepreneurs de la tech que j'emmène beaucoup ailleurs pour justement réfléchir. Et voilà, on se pose beaucoup de questions, notamment avec Victor Caro de Comet Meetings.
Tout à fait, ouais.
De comment va être un peu le travail de demain. On voit que tes salariés font beaucoup de remote. Et moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs dans la tech qui se disent, on va prendre des forfaits pour aller travailler et essayer, comme on est tout le temps en remote, de passer des temps de qualité ensemble. Donc, je pense qu'il y a vraiment un bel avenir devant toi, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent. Donc voilà, il va falloir bien exécuter bien et être bon.
On parlait des concurrents, donc tu parles de beaucoup d'acteurs qui se positionnent. Alors, justement,
comment sortir du lot, quoi.
Ouais, comment on
fait pour sortir du lot? Oui, c'est une bonne question. Il y a déjà des acteurs existants. Château Forme, pour ne pas les citer, sur le séminaire d'entreprise. On a des plateformes aussi qui se mettent en place où on peut louer une maison très facilement, un peu le Airbnb des séjours d'équipe. Notre positionnement, c'est de maîtriser la chaîne de valeur à la fois dans l'accompagnement de nos clients jusqu'à l'expérience délivrée sur site avec nos équipes sur place. Ça, c'est quand même un parti pris fort. Et le prix aussi, hein, c'est un vrai point. On est sur un tarif nuitée qui est quand même très attractif et qui permet de proposer cette expérience à tous les collaborateurs de l'entreprise, plus que un comité de direction ou un comité exécutif qui a l'habitude de vivre ça deux à trois fois dans l'année.
Ouais, l'expérience d'avoir le bon coach et tout.
Exactement.
Ça.
Exactement. Qualité de service. Donc on est entre l'hôtellerie et l'événementiel, d'une certaine manière.
Donc, vous avez aussi des coachs associés à l'aventure que vous emmenez sur certains sujets. C'est quoi les sujets que vous mettez en avant lors de ces séminaires-là ? Parce que, est-ce que c'est portable, d'ailleurs, facilement d'une boîte à une autre ? Enfin, c'est pas très simple de déterminer.
Ça dépend des besoins de cette entreprise. Donc, c'est là où l'accompagnement il est intéressant au QG. Et quand on définit l'expérience type qu'on va proposer aux collaborateurs, ça va être un atelier de co-développement avec un coach pour certaines entreprises, un atelier MBTI, donc là, plus des tests de personnalité pour d'autres entreprises.
Le MBTI, c'est un test de personnalité.
Voilà, test de personnalité, exactement. Donc, les coachs ont un panel de sessions qu'ils peuvent proposer. Donc, nous, on s'adapte aussi aux clients. Et ces partenaires sont freelance pour l'instant. Ils ne sont pas salariés chez Outwork.
Nous, on a des très, très bons coachs hein, chez les pionniers, qui, justement.
C'est vrai.
Alors, ça se trouve, Agathe, il y a plusieurs pistes de collaboration.
Mais il y a plein de choses à faire. On va s'en reparler.
Merci beaucoup Pierre Tardy,
merci
en tout cas fondateur d'Outwork.
Merci.
On suivra
merci
beaucoup, votre aventure de près. Merci beaucoup Agathe. Fred, on reste ensemble, c'est Fred vous répond dans un instant.
Voilà, ça va être à moi de répondre aux questions.
C'est parti.
À tout de suite.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous nous envoyez vos questions et j'y réponds par l'intermédiaire de Stéphanie Collot qui me pose toutes vos questions. Ça peut être sur votre business, votre activité, l'écosystème, les startups en général, parfois un peu la vie aussi. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a Stéphanie ?
Et on commence tout de suite avec la question d'Inès. Avez-vous déjà vécu le syndrome de l'imposteur ?
Alors oui, j'ai même envie de dire très souvent, c'est-à-dire que c'est une preuve qu'on est en train de progresser quelque part dans une direction qu'on n'a jamais vécue. Et en fait, c'est tout simplement un syndrome de l'inconnu et de la manière avec laquelle on va réagir à une nouvelle situation. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et la réponse à cela, c'est toujours de garder son envie d'apprendre et de faire le mieux qu'on peut. Et donc, en fait, on l'appelle syndrome de l'imposteur, mais c'est quelque chose d'extrêmement sain parce que ça aide à grandir justement, de se demander si on est la bonne personne, si on est à la bonne place, si les problèmes auxquels on fait face sont pas trop grands pour nous. En fait, ça nous fait grandir. Et ça arrive à tout le monde. J'ai envie de dire, les seuls qui ne ressentent pas le syndrome de l'imposteur sont les imposteurs, justement. parce que alors, ils se posent pas de questions. Ils se disent non, bah moi je
suis à ma place, à la bonne place.
Et donc le grand danger, enfin, de toute façon, de manière générale, même pour apprendre dans la vie, c'est de se dire qu'on sait tout. La seule bonne manière pour apprendre, c'est justement de comprendre qu'on ne sait pas grand-chose et de vouloir aller apprendre les choses d'après. Et donc c'est ça la bonne attitude pour progresser. Voilà. Et donc, je me souviens d'ailleurs que j'avais un prof de piano qui m'avait... Alors ça rejoint un petit peu cette notion de pas connaître, qui m'avait dit un jour quand je jouais un morceau de piano, enfin j'essayais de jouer un morceau de piano, j'y arrivais pas. C'était mon prof de piano jazz qui s'appelait Claude Terranova, et j'y arrivais pas. Et il me dit, il m'arrête à un moment parce que je m'énervais un peu.
Ouais.
Il me dit, Fred, je vais te dire un truc et je pense que ça va te servir pour toute ta vie. Il m'a dit, quand on ne sait pas quelque chose, on ne le sait pas encore. Donc avant de le connaître, on ne le sait pas, c'est normal. Et la différence entre je ne sais pas et je sais, ça s'appelle le travail. Okay. Donc tu vas retourner travailler et puis la semaine prochaine tu joueras ton morceau et ce sera bien mieux.
Ce qui s'appelle un très bon conseil. On passe à la question de Victor. Quel rôle jouent les fondateurs d'une start-up dans l'épanouissement des employés au travail ?
Alors je pense qu'on parle de management par l'exemple, hein. Mais il y a une forme d'exemplarité et de culture aussi qui est effectivement la responsabilité du ou des fondateurs. C'est-à-dire que, bon, ça rejoint aussi d'ailleurs une grande citation de Gandhi, hein, qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Mais en fait, si on veut avoir une bonne culture de société, enfin dans une entreprise, il faut commencer par soi-même inculquer cette culture-là et se rendre compte de l'importance que ça a. C'est-à-dire que des petites choses de travers vont devenir des grandes choses de travers plus tard parce qu'elles vont être amplifiées par la structure si on n'y fait pas attention. Donc en fait, ça demande justement au niveau du leadership et du management une sorte d'exemplarité. D'ailleurs, le leadership et le management, c'est pas la même chose. Leadership, c'est un petit peu inspirer et envoyer du vent dans la bonne direction. Le management, c'est plus, ça tourne un peu plus au niveau du contrôle. Mais dans tous les cas, il faut donner une culture qui donne envie à tout le monde de s'épanouir. Et puis, il faut insuffler aussi la culture de la confiance dans l'exécution pour chacun, c'est-à-dire de la responsabilisation, de la délégation, et ne surtout pas être dans une logique de micro-contrôle. Pour que chacun puisse s'épanouir dans une société, il faut que chacun ait ses propres responsabilités, son champ d'action et se sente libre justement d'agir pour le mieux. Et justement, la culture vient encourager cette liberté dans la mesure où ça donne non seulement de l'amplitude pour le faire, mais en plus quelques visions, quelques principes, quelques valeurs qui permettent à chacun d'exécuter en étant en adéquation avec la culture globale. C'est complètement différent des process. Dans une société, quand on met les bons principes et les bonnes valeurs en place, on a besoin de moins de process, parce qu'en fait, chacun va appliquer l'idée de ce qu'il faut faire à sa situation, sans forcément suivre un process extrêmement détaillé. Donc ça, c'est très important.
Voilà. Merci. Après, beaucoup, il y a aussi d'autres... Fred.
Ouais, je pense à Yvon Chouinard de Patagonia qui parle du management par l'absence et qui dit bon, bah, laissez vos employés, c'était let my people go surfing, comme il disait, donc laissez tous les gens de ma société aller faire du surf. C'est-à-dire que c'est important aussi de faire en sorte que tout le monde ait des sas de décompression, des activités passion en dehors du travail et revienne au travail trois fois plus motivé que si on travaille trop et qu'on n'a pas de passion à côté.
Merci beaucoup Fred pour tous ces conseils finalement à tous les entrepreneurs en devenir. C'est la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine évidemment.
À la semaine prochaine.
Bon week-end.
Avec grand plaisir.
Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.